Air Liquide devient donc historiquement le 11e groupe français à dépasser ce cap, ce seuil symbolique des 100 milliards d'euros à la Bourse de Paris. Bonjour Thibault.
Bonjour David.
Thibault Prébet, directeur général adjoint de la financière Arbevel. On se dit quand même que c'est une prouesse, comme de. Alors, oui, vous allez me dire Nvidia, 2000 milliards, Apple, d'accord, ok, mais à l'échelle européenne et française, c'est une prouesse de dépasser ce seuil, encore une fois. Dans le monde, j'ai regardé, hein, c'est dans les échos, hein, 131 boîtes qui pèsent plus de 100 milliards en bourse. Il y en a 80 sur 130 qui sont aux États-Unis.
Oui, c'est une prouesse, c'est une prouesse. Il ne faut pas toujours s'excuser, il ne faut pas toujours avoir honte. Non, c'est une super belle société mondiale qui est reconnue. Et c'est agréable de voir à la Bourse de Paris des sociétés prospérer. Puis c'est aussi agréable de le voir parfois avec une régularité qui est impressionnante, parce que c'est vrai que tout n'est pas que le succès. Il faut aussi offrir un certain confort aux actionnaires de ne pas toujours être au bord de la crise cardiaque. Et dans cette logique-là, le parcours d'Air Liquide est assez remarquable, hein, avec une régularité de la progression qui est. Quelque part immunisé, semble-t-il, aux perturbations. Et ça, c'est quand même très beau.
Avant de parler un peu plus d'Air Liquide, aujourd'hui, il y en a 8 sociétés françaises qui font plus de 100 milliards d'euros de capitalisation, de valorisation boursière, de poids boursier. Qu'est-ce que toutes ces boîtes ont en commun? Ou pas, d'ailleurs, il n'y a vraiment aucun rapport entre. Parce que
Non,
c'est pas de la tech, tout ça. Hein.
il n'y a aucun rapport. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des sociétés qui sont peut-être un peu emballées, puis qui sont retombées. Hein, on a eu l'emballement sur Orange au cœur de la bulle d'Internet, qui
Oui.
a quand même pas passé une grande partie de sa carrière au-dessus des 100 milliards.
Maintenant qu'il n'y en a plus que 8, il y en a eu 11, on faisait Orange,
C'est ça,
partie Orange, mais.
on pourrait parler d'EDF, qui encore a connu des fluctuations, qui à un moment donné, tout ce monde s'est emballé, n'est pas revenu.
Donc on peut
Mais
rentrer dans ce club et en ressortir.
voilà, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi y rentrer et puis y rester de manière finalement assez stable. Hein. On pourrait citer des sociétés comme Sanofi ou Total qui sont rentrées, sont jamais non plus allées à l'aube ou à l'orée d'un nouveau club et qui sont restées sur un 100 plus. Hein. Airbus n'est pas très loin non plus de cette vision-là. Ou d'autres qui, au contraire, s'en sont éloignés très significativement en allant chercher les valeurs du luxe qui, elles, sont plutôt montées chercher les 200, 400 milliards d'euros avec les trois groupes et demi, si on compte L'Oréal comme une société de luxe. Qui, elles, ont réussi quand même à dépasser les 200 milliards et s'éloigner. Et c'est un des enjeux pour Air Liquide. Est-ce qu'on parle du parcours de ces boîtes américaines qui, quand elles dépassent 1 000 milliards, tout le monde se dit quand les 2 000, et puis ça vient assez vite? Ou est-ce qu'on est arrivé pour stagner sur ce plateau? C'est une vraie question.
Bon, Air Liquide, donc on en parle parce que voilà, c'est l'actualité. Dernier à rejoindre ce club très sélect, spécialiste des gaz industriels. Son parcours boursier, Thibault, c'est un modèle du genre. C'est effectivement, vous le disiez, d'une régularité de la performance absolument incroyable. 28% sur un an, 60% sur 3 ans, 106% sur 5 ans, 190% sur 10 ans. Enfin, c'est incroyable, c'est cette
Ouais.
régularité de la performance.
C'est incroyable, ça s'explique par une caractéristique que Air Liquide est la seule à avoir, c'est que Air Liquide ne rentre dans aucune case, parce qu'Air Liquide rentre dans presque toutes les cases, ce qui n'existe pas. C'est-à-dire que vous voulez une société mondiale, qui est, pour toutes les sociétés industrielles qui utilisent quasiment toutes du gaz, un peu à l'instar de General Electric, qui était vu comme une sorte de baromètre de l'économie mondiale, vous avez Air Liquide qui a tout à fait ce rôle-là. En même temps, vous voulez une société de croissance, d'innovation, bah avec cette croissance des bénéfices qui monte quasiment 10% par an tranquillement, bah vous avez un peu ce profil-là. Vous voulez une société de rendement qui est régulière, qui vous offre un dividende, des actions gratuites par action détenue, ce modèle un peu rendement, vous l'avez. En même temps, vous voulez une société tech, bah vous voyez une société qui se paye plus de 3 fois le chiffre d'affaires. Hein. Aujourd'hui, on est à plus de 100 milliards pour 30 milliards de chiffre d'affaires. Avec des marges élevées, vous retrouvez un peu ça. Et puis, face à cette société industrielle qui paraît un peu balourde, ancien, le gaz, on a cette vision un peu datée, bah vous avez toute cette partie sur l'hydrogène qui est totalement dans l'air du temps et innovante. Donc vous voyez qu'on regroupe toute une série de choses. Alors pourquoi c'est intéressant? C'est intéressant parce que quand vous avez les gestions d'un côté croissance, de l'autre les gestions assez thématiques, de l'autre les gestions rendement, bah vous voyez que les gérants achètent un peu chacun leur truc. Et quand vous entrez dans les fourches caudines de tous les gérants, bah vous avez une appréciation qui fonctionne à tous les moments. Et du coup, bah, vous avez à la fois une régularité boursière et puis bah, des nouveaux acheteurs tout le temps. Donc cette histoire d'Air Liquide se singularise par sa capacité à être à la fois fleuron de l'ancienne économie et de la nouvelle et finalement de plaire un peu à tout le monde.
Et de rester une valeur bon père de famille.
Exactement.
Est-ce qu'elles ont en commun, toutes ces 8 entreprises qui pèsent plus de 100 milliards d'euros en bourse, elles ont tout en commun d'être une brique essentielle d'un portefeuille? Il faut avoir ces 8-là aujourd'hui en portefeuille.
Non, pas forcément. Après, il y a deux problématiques. La première problématique, c'est qu'est-ce que vous avez envie d'avoir dans votre portefeuille? Et la deuxième, c'est est-ce que vous vous gérez ou pas par rapport à un indice de référence? C'est sûr que si vous voulez vous gérer par rapport au CAC 40, qui est votre indice, bah, vous prenez les valeurs de luxe, vous allez vite taper dans les 30-40% de l'indice. Bah, ne pas les prendre, c'est difficile. Et en même temps, prendre 20% d'une, c'est difficile aussi. Donc c'est vrai que quand vous vous intéressez à cette trilogie Kering, Hermès, LVMH et éventuellement L'Oréal, bah, vous vous dites c'est compliqué de ne pas les avoir. En même temps, c'est quand même des valeurs qui ne sont pas d'une complémentarité évidente dans la mesure où elles font la même chose. Après, si vous regardez Schneider, là, c'est tout à fait différent. Donc, évidemment, c'est très complémentaire.
On dit pas Schneider ?
Oui, Schneider. Schneider. Vous avez rajouté ça et vous allez trouver sur quelque chose qui est complémentaire et intéressant.
Schneider qui fait partie des 100 milliards, des boîtes à 100 milliards.
Vous prenez Total. Hein. Total, c'était une société qui, tout le monde, plus personne n'en voulait. Et puis bon, en 2022, quand le monde change, qu'on veut plus ces valeurs vertes, qu'on veut de l'armement, du pétrole, bah vous voyez, le côté décorrélant dans un portefeuille est très intéressant, puisqu'il vous permet d'avoir quelque chose qui, un peu comme était Thalès sur cette période-là, n'était pas forcément ce que les gens voulaient un an avant, mais qui était tout ce que tout le monde voulait en 2022. Donc, dans la construction, il faut le voir. Est-ce que toutes valeurs peuvent techniquement avoir un sens ? Oui. Après, il faut aussi faire attention à la construction globale du portefeuille et aux corrélations. Maintenant, une société qui a atteint 100 milliards, c'est sûr que c'est déjà quelque chose d'intéressant en soi, mais ce qui intéresse souvent les investisseurs, surtout, c'est au-delà de ça, qu'est-ce qui peut aller à 500 milliards ? Et là, c'est un débat qui est un petit peu différent.
Il y en a en zone euro, des capitalisations à 500. On n'y en a pas beaucoup, non ?
Pas beaucoup. Alors, ce qui est très amusant et intéressant à remarquer, c'est que dans les gérants européens, effectivement, on connaît bien LVMH, on connaît beaucoup ASML, qui en plus a plus de flottants que LVMH. Alors, on est vraiment dans la machine-outil pour fabriquer des semi-conducteurs. Donc, on vend des trucs à 200, 300, 400 millions d'euros. Hein, donc, c'est vraiment quelque chose qui est à la pointe. Ça, c'est connu. En plus, ASML a plus de flottants que LVMH, donc dans les indices européens, c'est un poids qui est souvent plus important. Et puis, on a Novo Nordisk, hein, qui était une société qui a toujours cartonné, qui n'est pas euro, mais qui est Europe, qui vaut 600 milliards aujourd'hui. Il y a deux choses intéressantes de cette société. La première, c'est qu'elle est à la pointe dans l'innovation avec ce sujet GP1, vous savez, de ces éléments médicaux contre l'obésité qui révolutionnent la vie aux États-Unis. Voilà, avec Eli Lilly, qui sont les deux choses où, en fait, on se dit quasiment qu'il n'y aura plus d'obèses, il n'y aura plus d'opérations, besoin de stents, enfin, tout le monde rentre dans des réactions. Donc, c'est en train de dessiner la bourse et l'innovation en santé mondiale. Ce qui est intéressant, c'est que quand Sanofi, il y a très longtemps, hein, il y a pas loin de 20 ans, passe le seuil des 100 milliards, à l'époque, Novo Nordisk vaut 5 milliards. Ah. Et aujourd'hui, il en vaut 600. Donc, ce qui est intéressant,
c'est que Sanofi en vaut toujours 100 et quelques.
Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que là, le parcours, il est parfois plus important que le montant. Ça, c'est un premier point. Puis le deuxième point, c'est de voir aussi que chaque société a un but. Il y a des sociétés de pure croissance qui ne versent pas de dividendes. Donc on peut se dire, en France, on a eu l'habitude avec Orange Total de parler de dividendes. Donc on se dit, quand on est au plus haut, il faut vendre parce qu'on est au plus haut. Dans d'autres pays, vous regardez le Nasdaq, depuis les plus hauts de 2012, on a quadruplé. Donc ce n'est pas du tout le sujet parce que comme ce n'est pas des sociétés de rendement, on attend des nouveaux plus hauts chaque année. Vous voyez, ce n'est pas la même typologie. Il y a des sociétés comme Total, comme l'a été Orange, qui verse des gros dividendes, donc vous n'attendez pas toujours des nouveaux plus hauts, et il y a des sociétés qui n'en versent pas ou très peu, et là vous avez une légitimité à considérer que si la société déroule, il n'y a pas de raison de faire des nouveaux plus hauts tous les ans. Donc il faut aussi trouver cette image-là, et là encore Air Liquide a ce côté un peu hybride, effectivement, à la fois mon père de famille, puis à la fois une croissance qui semble durable, qui la met un peu des deux côtés, et donc qui effectivement donne l'impression à chaque investisseur que l'avoir soit à travers ses fonds, qui aiment tous beaucoup Air Liquide, soit en direct, peut pas tellement être une grossière erreur.
Allez, merci beaucoup. Explication signée Thibaut Prébet, directeur général adjoint de la financière Arbevel. Merci à vous.
Merci beaucoup.